l'écoute de RFI, 7h à Paris et Kinshasa, 6h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et Julien Coquel-Rohem pour le journal. Bonjour Julien.
Bonjour Andréane. À la une, deux versions qui continuent de s'opposer au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient. Celle de Donald Trump qui continue d'évoquer des discussions avec l'Iran. Et celle de Téhéran qui les dément. Nous sommes avec notre correspondant sur place dans un instant, alors qu'Israël continue de frapper le pays et que les services de renseignement iraniens accusent les États-Unis de se préparer à l'invasion terrestre d'une île iranienne dans le Golfe. Téhéran menace de plus en plus, vous l'entendrez, les pays alliés de Washington dans la région. À la une également une décision historique hier à New York, la traite des esclaves africains, reconnue comme le plus grave crime contre l'humanité par l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce journal aussi, la grogne grandissante contre les coupures d'internet en Russie. En France, l'émotion de l'une des victimes de Tariq Ramadan après la condamnation de l'islamologue à 18 ans de prison pour viol. Et puis de la musique à la fin de cette édition et un disque à la croisée des patrimoines musicaux du Liban et de l'Indonésie.
L'Iran n'a pas l'intention de négocier, mais continue à résister.
Les mots du chef de la diplomatie iranienne pour démentir encore une fois toute négociation avec les États-Unis. La Maison-Blanche assure que les discussions continuent. Donald Trump estime que les responsables iraniens ne les nient que par peur d'être tués par les leurs. L'Égypte et la Chine font bien état ce matin de signaux en faveur de pourparlers. Mais la confusion reste totale et la guerre continue. Siavosh Ghazi, vous êtes à Téhéran alors qu'Israël a concentré ses frappes de la nuit hors de la capitale et que l'Iran continue de riposter dans la région.
La nuit à Téhéran a été plutôt calme. Aucune détonation et aucune information sur d'éventuelles frappes sur la capitale iranienne ou les alentours de la capitale jusqu'à maintenant en tout cas. En revanche, les médias iraniens rapportent deux séries de frappes sur deux quartiers résidentiels dans la ville d'Ispahan. Sur les réseaux sociaux, on voit une énorme explosion visiblement en dehors de la ville d'Ispahan, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, de quelle cible il s'agit. Il y a eu également des frappes sur la ville de Shiraz et Bandar Abbas. En revanche, l'Iran a mené à concentrer ses contre-attaques sur les bases américaines dans la région, à Koweït, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux où on voit des incendies gigantesques sur ces bases. L'Iran a également lancé une frappe au drone contre le siège d'Amazon à Bahreïn et menace de plus en plus les monarchies arabes du Golfe Persique qui sont accusées d'aider les États-Unis dans leur guerre contre l'Iran, en particulier les Émirats Arabes Unis, mais aussi l'Arabie Saoudite, en affirmant que si jamais il y a une tentative d'occupation d'une île iranienne dans le Golfe Persique, toutes les cibles en Arabie Saoudite, aux Émirats, mais aussi à Bahreïn sont déjà prédéterminées et qu'il y aura des frappes très importantes contre les infrastructures de ces pays.
Siavosh Ghazi, merci. Alors que l'armée israélienne indique répondre à des attaques de missiles iraniens, le ton toujours très ferme de Téhéran, qui menace aussi d'ouvrir un nouveau front dans un détroit clé reliant la mer Rouge au golfe d'Aden en cas d'invasion terrestre américaine. Les États-Unis, qui tout en parlant de négociations, maintiennent la pression sur le régime. La porte-parole de Donald Trump affirme que le président américain est prêt à déchaîner l'enfer si Téhéran refuse d'accepter qu'il a été vaincu militairement.
On entendait Siavosh Ghazi évoquer les frappes iraniennes de la nuit sur les pays du Golfe. Des pays qui s'interrogent aujourd'hui, peuvent-ils espérer, Julien, un retour à la normale?
Il semble encore bien loin, comme on le voit, mais la question se pose notamment au Qatar, qui la semaine dernière a subi une attaque iranienne responsable de lourds dégâts sur son principal site de production gazière. Depuis, le petit émirat n'a pas signalé d'autres attaques et a décidé d'assouplir les restrictions. Nicolas Falaise est notre envoyé spécial à Doha.
Bientôt une semaine sans alerte signalant un missile ou drone iranien dans le ciel du Qatar. Alors depuis ce mercredi, les autorités de l'émirat autorisent de nouveau les rassemblements en plein air, notamment pour les mariages et les funérailles. Les écoliers, eux, devraient progressivement retrouver le chemin des salles de classe. Les écoles vont rouvrir dimanche, nous explique Saoud, 13 ans, vêtu de la longue tunique blanche traditionnelle des habitants du Golfe. Pendant 3 jours encore, nous aurons cours en ligne, précise l'adolescent, qui préfère étudier en classe plutôt qu'en distanciel. Le très jeune Qatarien raconte qu'il a eu peur les premiers jours au son des explosions qui ont bouleversé le quotidien des habitants. Nous avons eu peur pour notre pays, mais nous sommes heureux qu'il nous défende et intercepte les attaques. Je me sens en sécurité, assure-t-il. L'adolescent suit l'actualité de très près. Et lui qui rêve de devenir pilote, si possible, dans l'armée de l'air de son pays. Nicolas Falaise, Doha. RFI.
Et la guerre au Moyen-Orient au menu d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères du G7. Aujourd'hui et demain, près de Paris, toutes les informations liées au conflit sont à suivre en direct minute par minute sur notre site RFI.fr.
C'est une décision historique défendue et saluée hier par le président du Ghana.
John Dramani Mahama qui portait à New York cette résolution votée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle reconnaît la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité. Trois pays ont voté contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine, pendant que 52 autres se sont abstenus, notamment le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne. La résolution appelle les États à s'engager désormais dans un processus de réparation. Quelle forme pourrait-il prendre ? Emmanuel Saboro est spécialiste des questions de mémoire et d'esclavage à l'Université du Cape Coast au Ghana.
Certains plaident pour l'annulation de la dette, car l'Afrique doit encore de l'argent aux puissances coloniales. Une dette construite en partie sur des richesses tirées du travail des Africains. D'autres évoquent le transfert de technologies pour soutenir le développement du continent. Certains vont même plus loin et estiment que la traite transatlantique devrait être considérée comme une forme de génocide, ce qui justifierait alors des compensations. Le débat ne se limite donc pas à une question d'argent. Il porte sur différentes formes de justice réparatrice. La question est surtout de savoir comment ces réparations peuvent être mises en œuvre. Il n'existe pas de stratégie unique. Les États peuvent passer par des tribunaux internationaux, des négociations politiques ou d'autres mécanismes. Mais il existe des précédents. L'Allemagne, par exemple, a versé environ 88 milliards de dollars de réparations après la Seconde Guerre mondiale. Et les États-Unis ont indemnisé les Américains d'origine japonaise internés pendant la guerre. Autant de modèles dont les pays africains pourraient s'inspirer, même si le contexte est différent.
Emmanuel Saboro, expert ghanéen de l'histoire de l'esclavage, des propos recueillis par Christina Okello.
En Ukraine, deux morts à Kharkiv dans des frappes russes cette nuit.
Et les mots de Volodymyr Zelensky, interviewé dans le journal Le Monde, la pression sur la Russie est insuffisante, pas seulement de la part des États-Unis, mais aussi de l'Europe, dit le président ukrainien. Sur la scène intérieure, Moscou resserre son contrôle sur la société. On l'a vu notamment alors que plusieurs grandes villes, dont la capitale Moscou, ont été privées d'Internet ces dernières semaines. Le signal revient très doucement et partiellement, mais voilà Saint-Pétersbourg privé d'accès au web à son tour. Le pouvoir continue de défendre cette décision, mais sous le couvercle de la répression. La grogne est réelle, Anissa El Jabri.
Vendredi dernier, en soirée, sur la première chaîne télévisée de Russie, une émission très regardée depuis les années 90, un concours de chant. Sur l'écran apparaît soudain un chœur d'enfants habillés de rouge. Venu de Volgograd, âgé entre 7 et 16 ans, il célèbre les coupures d'Internet. Parmi les paroles, la vie est tellement mieux quand on voit ses amis en vrai, qu'on joue avec eux au badminton et qu'on n'est pas dérangé par la lumière bleue d'Internet. Le numéro chantant a été diffusé pour une audience âgée vivant dans de petites villes, soit pas du tout celle en proie à la grogne ou à la colère. Ce jeudi matin, un édito d'un journal russe donnait le ton, je cite, « Les coupures d'Internet sont du stalinisme. Elles font s'interroger sur les priorités du pays et notamment sur son développement économique. » La Nezavissima Gazeta allait jusqu'à appeler à priver les forces de sécurité du droit exclusif de blocage, des forces de sécurité qui, je cite encore, aiment se faciliter la vie en limitant les libertés des citoyens. En attendant, dans la capitale russe, les toilettes sur la voie publique ne sont toujours pas accessibles. Leur paiement et leur ouverture sont uniquement payables via le numérique. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Et de nombreuses demandes d'autorisation de manifester contre ces coupures ont été déposées pour ce samedi en Russie. La majorité d'entre elles refusées. Motif présenté, le risque de propagation du Covid.
18 ans de prison et une interdiction définitive de territoire français.
La peine prononcée hier par la justice française à l'encontre de Tariq Ramadan, l'islamologue suisse, condamné en son absence pour des viols commis sur trois femmes entre 2009 et 2016. La cour criminelle a mis en avant l'extrême gravité des faits, l'absence de consentement des plaignants, mais aussi la perversion de Tariq Ramadan qui avait en âme et conscience profité de leur vulnérabilité. Une peine qui suit précisément les réquisitions du parquet et qui permet surtout à ces trois plaignantes d'être enfin reconnues victimes. L'une d'entre elles a pris la parole très émue à la sortie de la salle d'audience hier soir. C'est elle qui, la première, avait dénoncé ces viols.
Les juges m'ont cru. Moi, comme les autres victimes, je pense très fort à elles.
Elles sont absentes. Et ce soir, je pense très fort à elles, aux victimes qui ont eu le courage de déposer plainte comme moi, mais aussi à celles qui n'ont pas trouvé la force, à certaines qui ont retiré leur plainte à cause des menaces, des représailles. Ça a été 9 ans de souffrance, de combat. J'ai résisté tant bien que mal. Et aujourd'hui, je me sens très soulagée et je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue toutes ces années et à celles qui sont toujours là. Alors merci et surtout merci à la justice, merci aux juges, merci à la justice de mon pays parce que j'ai eu raison d'y croire.
Enda Ayari, l'une des 3 victimes de Tariq Ramadan à la Cour criminelle de Paris hier soir. Au micro d'Amélie Beaucourt. En France, toujours la garde à vue de Gims, le roi congolais de la chanson francophone. Interpellé hier soir à Paris à sa descente d'avion, rattrapé par la justice. Dans une affaire de blanchiment en bande organisée, 5 anciens trafiquants de drogue reconvertis dans la criminalité financière auraient déjà été mis en cause dans ce dossier. On en parle plus en longueur dans le journal de 7h, temps universel.
Et puis, Julien, de la musique et un album qui nous emmène à mi-chemin entre Beyrouth et Jakarta.
C'est un mélange qu'on n'aurait pas forcément imaginé, Andréane, mais c'est ce que propose le musicien et producteur libanais Sharif Megarban avec son album Tirakat qui vient de sortir en collaboration avec le groupe de funk indonésien Ali. Une rencontre permise par le label berlinois Habibi Funk et que Léa Boutin-Rivière nous présente ce matin.
Quelques musiciens qui ne se connaissaient pas mais qui se sont bien entendus en studio.
Voilà donc pour la présentation du disque selon Sharif Megarban, le musicien et producteur libanais, les membres du groupe Ali. On secoue le tout et ça donne un album entre funk indonésien et psychédélisme moyen-oriental. En bref, Tirakat tisse une savante toile.
Commencer, c'est sans recours. Quand elle saura ce qu'il sait, ils feront l'amour et arrêteront d'en parler. Ce sera court et chacun de son côté fera un tour vers l'éternité. Pourvu qu'un jour ils puissent se retrouver. Pourvu qu'un jour ils puissent se retrouver. Pas du velours, c'est pas des contes de fées. Chacun son tour, le sien est arrivé. Le cœur lourd, il doit s'exiler. Passer avec elle vers mon pays, la devise fraternelle, quoique ces temps-ci, on lui soit pas bien fidèle. Le temps leur est compté, le compte à rebours a déjà commencé. C'est sans recours, quand elle saura ce qu'elle sait, ils feront l'amour et arrêteront d'en parler.
saigne quand l'insécurité règne. En sous la pression quotidienne, des hordes de parias se plaignent. Je suis Al. Pour leur confort et leur richesse, porte un toast à la mienne. Pendant qu'ils se baignent dans le sang de nos espoirs qui saignent. Je suis Al. Pour les concepts taliennes, quand la rhétorique devient palestinienne. Quand il faut défoncer les rimes hollywoodiennes. Je suis Al. Quand les crimes parviennent, quand les douleurs reviennent. Quand de nos villes n'ont qu'une vision de surveillance aérienne. Je suis Al. Quand il faut sortir de l'artistique, de la masse des statistiques, où la ligne de coke remplace le stick. Je suis Al. Quand on te traite comme une seconde catégorie d'humain, quand pour un flic je suis d'abord noir avant d'être citoyen. Je suis Al. Quand les mots n'évoquent ni fleurs ni oiseaux, quand nos vies tombent comme des immeubles à raser à l'heure de la nausée. Je suis Al. Quand il faut mettre un billet d'humeur dans le barillet d'un canon, faire jaillir le flot, charger un gun avec des mots. Je suis Al. 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 Quand entre les alcools et les drogues, du prologue à l'épilogue, sous le assassin de sociologue, tu restes un slum dog. Je suis Al. Quand vivre est un bourbier, quand les factures rendent toxique le courrier, quand semaine, mois et années méritent d'être oubliés. Je suis Al. Quand t'as pas vu les fruits de la croissance, qu'aujourd'hui tu bouffes la crise, quand tu chiffres cette France qui attend que tu lui fasses la bise. Je suis Al. Quand c'est des frères fichés, un avenir à défricher, des textes à rédiger, des flaques de gerbe au premier rayon du jour. Je suis Al. Quand la vie aime tant gifler, quand on brandit un emblème à l'effigie d'enfants perdus et de parents affligés. Je suis Al. Quand la malchance ne cesse de pull up, quand ça tourne plus dans le ciboulot, quand les carrières c'est du chômage et des petits boulots. Je suis Al. Quand le choix n'existe vraiment qu'entre rompre et plier, quand les jours de fête n'existent que sur le calendrier. Je suis Al. Quand la rime refuse de se jeter sur les traces de la notoriété, quand elle demeure menace pour la société. Je suis Al. 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 Même si souvent j'ai l'impression d'y perdre mon temps, je reste Al. Je reste Al. Je reste Al. Je reste Al. Je suis 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 Al.
Bien, on est là.
I was walking through Ridgewood, Queens. I was flipping through magazines. I was so starving. Should I eat this? I was so
starving.
I was scratching off silver ink. I was deciding what to drink. I was so
starving.
And I was walking through Ridgewood, Queens. And I was flipping through magazines. I was so
starving.
Thank you.
principe actif, le mix des cultures.